Session d'introduction à la théologie par le père Philippe à Rimont. La Trinité, le 17 mars 1989.
Parce que, pour lui, si l'intelligence humaine n'était pas capable d'atteindre l'existence de Dieu, il n'y aurait pas de théologie scientifique. On n'aurait qu'une théologie biblique. Mais puisque l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu, et ceci, tous les pères de l'Église ont affirmé, je dirais, on l'a affirmé jusqu'à Luther. Le grand tournant était Luther. Luther dit que l'intelligence humaine, à cause et conséquence du péché originel, ne peut pas atteindre l'existence de Dieu. Et alors, à partir de là, il y a eu de grosses discussions. Luther, Kant, l'affirment avec force. Et aujourd'hui, beaucoup de thomistes, beaucoup de théologiens disent que l'intelligence humaine est incapable d'atteindre l'existence de Dieu. Il y a eu une réunion, il y a quelques années, table ronde, de théologiens dominicains, on dit on ne peut pas dépasser Kant. Et donc il faut revenir à cette position de Kant. Ce que l'Église appelle le fidéisme, il ne faut pas l'oublier, il y a Vatican I. Vatican I a posé le problème d'une façon très nette. Est-ce que l'intelligence humaine peut atteindre l'existence de Dieu? Et on est affirmé, selon toute la tradition, que l'intelligence humaine était capable d'atteindre l'existence de Dieu. Tout en reconnaissant que c'est très difficile. C'est bien évident. Surtout dans le contexte d'aujourd'hui. C'est très très difficile, il faut le reconnaître. Mais c'est pas parce que c'est très difficile, qu'on doit affirmer l'inverse. La difficulté n'est pas une raison objective. La difficulté est une raison subjective. Et quand un gosse dit que c'est très difficile de manger sa soupe, on lui dit « mange ta soupe, on verra ça après ». Mais la difficulté peut être, au point de vue pédagogique, une raison majeure, mais ce n'est pas une raison objective. Il y a des gens qui ont des difficultés, très bien, ils ont de la difficulté. Exercez-vous et puis petit à petit vous arriverez. Aujourd'hui, la difficulté est devenue une raison objective. Parce qu'on fait des tests. Combien de personnes arrivent à découvrir l'existence de Dieu par leur raison, par leur intelligence? Très peu. C'est pas à cause de ça que Vatican I s'est trompé. C'est très vrai que si l'intelligence humaine est incapable par elle-même d'atteindre l'existence de Dieu, l'intelligence humaine ne peut plus être au service d'une théologie scientifique. Je ne donne pas les raisons ici, mais c'est un problème extrêmement intéressant. Et moi, je crois capital aujourd'hui. Parce que, on le dit, on le répète, la crise théologique est une crise philosophique. Avant tout. Et ça, j'en suis convaincu. C'est parce que la philosophie n'est plus enseignée. Faut dire la chose comme elle est. On se met à la remorque des post-kantiens qui, au dire d'Hegel, sont des imbéciles, parce qu'Hegel n'hésite pas de le dire. Et Hegel est luthérien. Celui qui a injurié le plus Kant, c'est Hegel. Ils sont des Allemands, donc ça va. Ils peuvent s'injurier. Et ils se sont fameusement injuriés. Je vous affirme. Fossoyeurs de l'intelligence. C'est comme ça qu'Hegel traite Kant. Et nous, bons catholiques, nous suivons Kant. Je sais très bien qu'il y en a qui suivent Hegel. C'est très vrai qu'on est à la remorque de philosophies qui sont fausses, qui ne peuvent plus aider la foi. Il faut appeler les choses par leur nom. Et toutes les grosses difficultés d'aujourd'hui proviennent d'une crise philosophique. On ne sait plus ce qu'est l'intelligence. On sait encore à peu près ce que c'est que la foi. Mais dès qu'on met l'intelligence au service de la foi, on ne sait plus du tout. Et là, on fait une mélasse. Donc là, il y a un très gros problème. C'était le début de la session. Comment l'intelligence humaine peut-elle atteindre l'existence de Dieu ? Pour saint Thomas, c'est capital. Pour saint Thomas, si l'intelligence humaine est capable d'affirmer l'existence de Dieu, l'intelligence humaine est incapable d'affirmer le mystère de la fécondité en Dieu. Absolument incapable. C'est Hegel qui, lui, croit que l'intelligence dialectique peut remplacer la foi. Oui, c'est juste inverse. C'est intéressant de voir toujours les contraires. Vous savez, les deux grands périls. Kant, seule la foi peut parler de Dieu. Hegel, l'intelligence peut tout dire. Plus besoin de la foi. Mais c'est quand même très curieux. Et je crois qu'il faut toujours voir ces deux positions extrêmes. Parce qu'on passe facilement de l'un à l'autre. Kant, Hegel. Deux chrétiens. Deux, je crois que Kant était luthérien aussi. C'est à l'intérieur du luthérianisme qu'on voit cette grande opposition. Kant, Hegel. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? C'est que cette position s'est infiltrée dans le christianisme et le catholicisme. C'est extrêmement important de saisir ça. C'est par la philosophie que, de fait, les positions luthériennes se sont infiltrées dans l'Église. Parce que Kant, des quantités de catholiques sont kantiens. Hegel, des quantités de catholiques sont hegeliens. Or, je crois que la position de Kant et la position de Hegel sont en opposition avec la grande tradition de l'Église, celle des pères de l'Église, celle du Moyen-Âge, des grands théologiens, jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est notre XXe siècle qui a ouvert les portes. Kant et Hegel. Et beaucoup de catholiques aujourd'hui sont kantiens et hegeliens. Alors, à ce moment-là, la position de saint Thomas est devenue une position historique. C'est très bien, saint Thomas, au Moyen-Âge, puis aujourd'hui. Position de quantité, même de dominicains. Je suis dedans, alors je sais. Et la position d'une quantité de théologiens, la plupart. Saint Thomas, très bien, mais au Moyen-Âge. Or, le Concile Vatican II a maintenu que saint Thomas était le docteur commun, et que c'était toujours très dangereux de le quitter. Je ne dis pas du tout qu'il faut répéter saint Thomas, parce que saint Thomas ne peut pas se répéter. Quand on répète saint Thomas, on essaie de le comprendre, oui. Saint Thomas aiguise notre intelligence et fait appel à notre foi, comme un grand maître. Mais il ne faut pas le répéter, c'est incommunicable aujourd'hui. Vous voyez, prenez un traité sur la très sainte Trinité et le jour de la très sainte Trinité, mes frères, nous allons lire un article de saint Thomas comme sermon. Ce serait peut-être beaucoup plus intelligent que beaucoup d'autres sermons. Et donc, pour les gens intelligents, ils seraient très heureux d'avoir quelque chose d'intelligent. Mais je crois que la plupart ne comprendraient rien du tout. Ce serait complètement inadapté. Saint Thomas est complètement inadapté. Ça, je le dis, hein, complètement inadapté. Mais saint Thomas reste intelligent. Alors, toute la question de savoir s'il faut être intelligent ou adapté. C'est la grosse question, vous savez, aujourd'hui. Moi, j'opte pour être intelligent. Parce que je crois que le peuple de Dieu aime mieux avoir des pasteurs intelligents que des pasteurs trop adaptés, qui courent par derrière. Il vaut mieux être par devant. Et au bout d'un certain temps, on arrive à s'entendre. Toujours, si on est intelligent. Si on est intelligent, on est souple. Si on est intelligent, on n'a pas d'ornière, on n'a pas d'a priori, et on essaie de se comprendre. Et au bout d'un certain temps, on se comprend. Si après tout, c'est pas si bête. Je me souviens. Non, je ne dis pas ça, parce que c'est des souvenirs. Il ne faut pas trop dire des choses comme ça. Bon, on va regarder la position de saint Thomas, maintenant. Pour saint Thomas, le mystère de la très sainte Trinité ne peut être saisi que par la foi. Mais l'intelligence humaine peut montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Vous voyez, la grande contradiction, visible, immédiate, quand il s'agit du traité de la très sainte Trinité. Dieu est absolument simple. La première affirmation sur l'existence de Dieu. Comment, dans la simplicité, voir trois personnes ? L'unité. L'unité et la simplicité, ça va de soi. Et l'intelligence humaine est à l'aise en affirmant que Dieu est absolument simple. Parce que quelqu'un d'intelligent peut le dire. Si Dieu existe, il ne peut être que simple. Parce que toute complexité implique des limites. C'est vrai. On le sait bien, quoi. Tous les jours, on en fait l'expérience. Que notre complexité implique des limites. Et que la complexité de notre voisin fait que nous avons tellement de peine de le trouver. S'il était simple et nous simple, on s'entendrait tout de suite. Les gens simples s'entendent tout de suite. C'est les gens compliqués qui font des complications. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils ont beaucoup de peine de s'entendre. Tandis que la simplicité de Dieu, c'est merveilleux. On contemple la simplicité de Dieu. Il est un. Et la foi nous dit que dans cette simplicité absolue, il est totalement simple. Dans cette simplicité absolue, il y a trois personnes. Vous voyez qu'au point de vue de notre intelligence humaine, c'est contradictoire. Un n'est pas trois. Et c'était le gosse qui, assistant à la première leçon de mathématiques, parce qu'il n'aimait pas son professeur de mathématiques, le professeur de mathématiques dit 1 et 1, 2. Le gosse dit à sa mère en rentrant, le maître, c'est un imbécile, il dit 1 et 1, 2, 1 et 1, 1. La pauvre mère ne savait plus quoi dire. Elle disait, mon fils est très intelligent, mais le maître, il faut respecter ce qu'il dit. Eh bien, quand vous dites 1, vous ne dites pas 3. Or, dans la foi, vous dites 1 et 3. Ayez des discussions avec des musulmans. Vous en aurez. Puisque la France devient musulmane. Hein. Alors, vous en aurez. C'est bientôt. Et comme ils sont extrêmement tyranniques, et puis fanatiques, ils vous poseront la question. Vous, vous dites ça. C'est des imbéciles, quoi. Nous sommes monothéistes, jusqu'au bout. Nous sommes logiques. Nous avons une foi logique. Tandis que vous, alors c'est ce qu'on disait dans une apologétique mastéenne, je ne l'ai pas lu, mais c'est le père de Ménas qui lisait le persan parfaitement et qui un jour m'a montré ça. ça m'a beaucoup intéressé. Cette religion catholique qui repose sur le témoignage d'une femme. C'est à cause de Marie que vous dites qu'il y a trois personnes en Dieu. C'est à cause d'elle. C'est une femme, alors une femme, la logique. Hein. Un et trois. Ouais. On voit très bien ce genre de raisonnement. Mais je vous affirme, on sera en face de ça. Il faut qu'on réfléchisse. Comment on peut montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Un et trois. Alors, voilà la position pour le théologien. Le théologien n'explique pas le mystère. Mais il nous libère de toutes les objections. Le théologien doit nous permettre d'être libre dans nos affirmations de foi. En montrant que toutes les objections, ça ne tient pas. Et c'est en ce sens-là, vous voyez, que le théologien dispose à la contemplation, dispose à la mystique, parce qu'il nous montre que le mystère de Dieu nous transcende complètement, mais n'est pas en contradiction, que la foi n'affirme jamais rien qui soit contradictoire à une intelligence qui veut aller jusqu'au bout de son intelligence. Jamais de contradiction entre la science et la foi. C'est bien utile aujourd'hui de comprendre ça. Et d'en avoir la certitude intérieure. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Parce que la foi, c'est tellement plus élevé. Vous voyez, prenez l'image hein, que les gosses comprennent très bien aujourd'hui. La foi nous fait voler à 10 000 mètres. La science, c'est toujours un peu au-dessus des toits. 300 mètres. Alors, un vol. L'avion A, l'avion B, se rencontre jamais. C'est très beau. Quand on est dans l'avion de 10 000, de voir l'avion 500. C'est intéressant à voir. Il va beaucoup plus vite, c'est évident. Et c'est amusant à regarder. Ils ne se rencontreront jamais. La foi, 10 000, infini. La foi, infinie. C'est dans l'abîme de Dieu. Puisque c'est la lumière de Dieu qui nous est donnée. Et la science, ça décolle. Difficilement. Difficilement. Ça reste toujours un peu. Il ne faut pas quitter les toits. Parce que si ça quitte les toits, on part. Oh, les mathématiques, de temps en temps, 500. Les mathématiques, oui. Et les autres sciences appliquées, il faut rester toujours proche de l'expérimentation. Il n'y a aucun danger de rencontre. Aucun. Ah, mais tous les deux descendent sur le terrain de la question. Mais le danger, hein. C'est quand ils veulent atterrir au même endroit. Et atterrir au même endroit, c'est quoi? C'est l'homme. C'est l'homme qui est croyant. C'est l'homme qui est savant. Alors, hein, à l'atterrissage, si on ne fait pas grande attention, s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour nous dire « Attention, attendez 5 minutes !» Ou 10, ou un quart d'heure. Autrement, vous allez tomber dessus. Eh bien, l'atterrissage, c'est l'homme. Il faut que l'homme soit intelligent pour comprendre que la foi peut nous dire telle conclusion scientifique dans son usage, c'est-à-dire dans son application sur l'homme, dans son atterrissage. Je voudrais dire ça tout de suite. Dans son atterrissage, va être en contradiction avec la foi. La science en elle-même n'est jamais en contradiction avec la foi. Mais dans ses applications, ça peut se faire. C'est pas la science, c'est les applications. Vous voyez, toute l'histoire de Galilée, puisqu'elle est toujours très actuelle, toute l'histoire de Galilée, La condamnation a été très mal faite. Mais en réalité, pourquoi l'Église a condamné? C'est à cause de l'application. Galilée disait, à cause des conclusions scientifiques, il faut relire l'Écriture d'une nouvelle façon. L'application. À propos de l'exemple de Josué, soleil, arrête-toi, vous comprenez? Oui, oui. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. À cause de l'application. Et c'est tout le temps comme ça. C'est les applications. C'est pas les conclusions scientifiques. Donc l'atterrissage. Le mystère de la très sainte Trinité, il a l'avantage qu'il est tellement élevé. L'atterrissage, c'est l'habitation de la très sainte Trinité en nous. La science ne pénètre pas là. La psychologie ne pénètre pas là. La mystique est au-dessus de notre psychologie. Mais de temps en temps, quand on est très fatigué, celui qui essaie de contempler s'endort. Alors la psychologie reprend tous ses droits. Alors on dira, il y a une espèce de contradiction entre les deux. Non, il n'y a pas de contradiction. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Mais on peut dire que dans les applications, il faut être attentif. Dans l'atterrissage, il faut être très attentif. Le mystère de la très sainte Trinité dépasse infiniment tout ce que le philosophe, le métaphysicien peut dire. Le métaphysicien, quand il est un vrai philosophe, aboutit à la simplicité de Dieu. Aristote l'a dit ça. Un pur philosophe a dit, Dieu est l'acte pur. S'il est l'acte pur, il est absolument simple. Pas la moindre ombre en lui. Le croyant dit, cet acte pur implique trois personnes. Alors, le théologien va essayer de comprendre ce qui nous permet d'affirmer cela tout en affirmant la simplicité. Le théologien regarde la révélation. Et s'il est un bon théologien, dans la révélation, il va tout de suite saisir le point le plus intelligible de la révélation. Et c'est là où on voit le bon théologien. Par rapport au mystère de la très sainte Trinité, puisque nous y sommes, je vois deux sortes de théologie. Je prends exprès deux théologies que je connais un peu. Celle de saint Thomas. Je vous lis le début du mystère de la très sainte Trinité, question 27. On a étudié précédemment ce qui concerne l'unité de la divine essence. Il reste à étudier ce qui concerne la trinité des personnes en Dieu. Vous voyez, voilà bien le problème. Et puisque les personnes divines se distinguent par leur relation d'origine, l'ordre de notre exposé est tout tracé. Vous voyez, la foi ne nous dit pas, oui, elle nous dit, si on est très intelligent, on saisit tout de suite, par leur relation d'origine. Pourquoi par leur relation d'origine? Parce que vous trouvez immédiatement dans l'évangile de saint Jean, je suis sorti de Dieu. Je suis sorti de Dieu. Ego, ex Deo, processi. Je procède de Dieu. Voilà la distinction entre le Fils et le Père. Ego, processi. Donc, le théologien est tout de suite attentif à ça. C'est les relations d'origine qui vont nous permettre d'avoir une certaine intelligibilité du mystère de la très sainte Trinité. Alors, on comprend très bien, le théologien d'ordre scientifique prendra l'origine. Quelle est l'origine? La procession. Les relations d'origine et les personnes. Tout l'ordre nous est donné là. On y reviendra ce soir. Ici, je vais regarder le point précis des processions. Je vois un autre théologien, qui est dominicain aussi, qui était en opposition avec saint Thomas, qui revenait à saint Augustin. Il dit, le traité de la très sainte Trinité doit être regardé par le mystère de la fécondité. Ça m'a toujours beaucoup intéressé, ça. La fécondité, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi pas commencer le traité de la très sainte Trinité par la fécondité? Regardez l'écriture. Il n'est pas dit que Dieu est fécond. Quand Dieu, puisque c'est la première révélation de la très sainte Trinité, quand Dieu apparaît à Abraham, ils sont trois. Ils sont un. Et Abraham les voit comme trois jeunes gens. D'où l'icône que nous connaissons bien, qu'on met en grande lumière aujourd'hui. Partout, on voit l'icône de la très sainte Trinité. Impossible de mettre saint Thomas en icône. Faites une icône de la procession. Impossible. Tandis que là, Dieu apparaît trois jeunes gens. Mais Dieu ne dit pas, parce que je suis fécond, tu seras fécond. Non. C'est curieux, hein ? Moi, si j'étais à la place de Dieu, c'est ce que j'aurais dit. Parce qu'il y a la fécondité en Dieu, dans la très sainte Trinité, tu seras fécond, puisque je t'ai créé à mon image. C'était tellement plus facile. On aurait tous très bien compris. Vous savez bien, de temps en temps, les sermons, le jour de la très sainte Trinité. Voyez, en Dieu, il y a une famille. Il y a un Père, il y a un Fils, puis il y a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, alors on ne sait pas très bien comment classer. Parce que normalement, il y a le Père, la Mère et le Fils. Tiens, tiens, alors comment on va faire? Mais l'Esprit Saint, c'est la Mère. Oui, mais elle vient en troisième lieu. Là, comment ça fait? Ah, ça ne va plus très bien. Vous voyez, et c'est vrai. Les prédicateurs, de temps en temps, pour faire descendre la très sainte Trinité dans la famille chrétienne, disent, mais oui, la très sainte Trinité, c'est la première famille. Si je pars de la fécondité, ça ne va plus du tout. Les trois personnes divines apparaissant à Abraham parlent de la fécondité de Sarah. Et ça la fait rire. Je comprends. C'est très beau hein, de voir que la très sainte Trinité s'est révélée en faisant rire Sarah. Moi, je trouve ça très étonnant. Je crois qu'on rira pendant toute l'éternité. En face de la très sainte Trinité, c'est tellement merveilleux. Alors il y a le sourire, la dilatation. Le sourire, c'est ça. C'est l'épanouissement. Les trois personnes qui sont une révèlent à Abraham la fécondité de Sarah. Ah, je trouve ça très étonnant que Dieu ait choisi la fécondité de Sarah pour nous donner, j'allais dire, la première approche. Ce n'est qu'une approche. Mais c'est une approche. Une approche merveilleusement psychologique. La fécondité de Sarah. J'ai enfanté un fils de par Yahvé. C'est Ève. Pour bien comprendre Sarah, il faut regarder Ève. Hein. Parce qu'elles sont quand même liées l'une à l'autre. Ève, c'est la première de toute la création. Et Sarah, c'est la mère de tout le peuple d'Israël. Donc il y a un lien entre les deux. Et Sarah sourit, elle ne comprend pas, elle ne comprend pas. C'est impossible, c'est impossible. Dieu radote. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Je suis vieille, je ne peux plus être mère, c'est impossible. Et c'est absolument impossible. Elle sourit. Et Dieu lui dit, attention, attention. Hein. Elle sourit. Pourquoi elle sourit? Oh, je n'ai pas souri du tout, oh, je n'ai pas ri du tout. C'est quand même très curieux comment est annoncé le mystère de la très sainte Trinité. La fécondité. Pourquoi le théologien ne continue pas? Parce que justement, la fécondité pour nous, elle est liée au monde sensible. Je ne peux pas donc immédiatement passer de la fécondité au mystère de la très sainte Trinité. Il y aurait une tendance, hein. Ce serait ce qu'on appelle une projection psychologique. Et dans les projections psychologiques, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a un déraillement. Et le déraillement est facile à comprendre. Là. Dans la famille humaine, il y avait le père, la mère, le fils. Et dans la très sainte Trinité, voilà le déraillement. Il y avait le père. À lui reste la stabilité. Il est le principe. Il y avait le fils. Et vous avez l'Esprit Saint. Déraillement. Parce que c'est une projection psychologique. Pour ne pas faire de projection psychologique, il faut la purification de la théologie scientifique. Et la théologie scientifique est très attentive à ce que Dieu dit. Parce que quand Dieu nous révèle le mystère de la très sainte Trinité, Dieu sait que c'est infiniment grand. Ça nous dépasse infiniment. Alors, comment Dieu nous révèle le mystère de la très sainte Trinité ? Par son Fils bien-aimé. Dans la première alliance, c'est d'une manière énigmatique, d'une manière symbolique. C'est très très beau, c'est magnifique, c'est poétique. C'est très poétique, la première alliance. Il faut se reposer en revenant toujours à cette grande poésie. De Dieu, tous les grands symbolismes de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que dit Jésus ? Moi, je procède du Père. Ego, ex Deo, processi. C'est beaucoup moins poétique. La procession que la fécondité. Et c'est cela que choisit le théologien de théologie scientifique. Saint Thomas est un poète à son heure. Il n'a pas fait le traité de la très sainte Trinité sur la fécondité. Un autre théologien dominicain qui n'aimait pas beaucoup Saint Thomas et qui revenait à la psychologie de Saint Augustin a voulu faire tout un traité de la très sainte Trinité sur la fécondité. Heureusement qu'il n'est pas très connu parce qu'on se jeterait dessus aujourd'hui. Et on ferait un traité de la très sainte Trinité par le point de vue de la fécondité. C'est dur en 5%. 5%, quand on passe devant la ville, hein, je salue toujours Durand. Il y avait un grand couvent dominicain, là. Et il y avait Durand qui a été rejeté des dominicains parce qu'il n'aimait pas beaucoup Saint Thomas. Et qui a été reçu à la curie papale d'Avignon. Et il y a toujours des histoires avec les théologiens. Et les théologiens dominicains ont dit non, vous êtes augustinien. Et à partir de ce moment-là, on a demandé aux dominicains d'être fidèles à Saint Thomas. Alors la fidélité, c'est difficile d'être fidèle à Saint Thomas. Très très difficile. Parce qu'il faudrait être aussi intelligent que Saint Thomas. Il faudrait aller aussi loin que lui. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est que tout le traité de la très sainte Trinité chez Saint Thomas repose sur ego processi. Moi, je procède du Père, je procède de Dieu. La procession. Alors, essayons de comprendre comment la procession, et c'est bien ce que nous dit Saint Thomas tout de suite, premier article, y a-t-il une procession en Dieu ? C'est toujours intéressant de voir le premier article. Hein. C'est ça qui commande tout. Y a-t-il une procession en Dieu ? Alors, Saint Thomas va nous montrer procession, qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot procession, qui est dans l'écriture. Donc le théologien s'appuie sur l'écriture, directement. Alors il n'est jamais dit dans l'écriture que Dieu est fécond. Moi, ça m'a toujours pas troublé. Mais pourquoi ? Parce que justement, on ferait une projection psychologique. Et des quantités de théologiens aujourd'hui font des projections psychologiques. C'est pour ça qu'il y a des déraillements souvent, les freins ne marchent plus. Il y a des déraillements. Ça ne va plus. Ego progressi. Et regardez dans Saint Jean, vous voyez que c'est le terme garder. Alors, Saint Thomas va regarder, y a-t-il une procession en Dieu ? Procession, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous lis le début de l'article. Touchant les réalités divines, la Sainte Écriture use de termes qui ont trait à la procession. La divina scriptura. Dans les divines, vous voyez, tout de suite, on s'appuie sur ce que l'Écriture sainte dit. Donc, ce qui appartient à la procession. Procession qui a été comprise en sens divers. Certains, et le théologien sait, qu'il navigue dans une terre difficile. Certains ont bien compris, certains ont mal compris. Certains l'ont entendu à la manière dont l'effet procède de sa cause. Arius disait ainsi que le Fils procède du Père comme sa première créature et que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme leur créature à tous deux. Mais dans cette hypothèse, ni le Fils ni le Saint-Esprit ne seraient vrai Dieu. Ceci irait donc contre la simplicité absolue de Dieu. Si vous mettez en Dieu une procession qui implique un effet, l'effet est toujours inférieur à la cause, et donc il y aurait une division en Dieu. Et donc ça irait contre la simplicité. Donc je ne peux pas comprendre procession dans ce sens-là. D'autres ont entendu cette procession au sens où l'on dit que la cause procède en son effet, en tant qu'elle le meut, ou lui imprime sa ressemblance. L'artiste. Ainsi fit Sabellius. D'autres après lui, Dieu le Père lui-même s'appelle le Fils, en tant qu'il a pris chair de la Vierge. Bon, peu importe toutes ces questions. Je laisse tomber toutes les erreurs. Et vous voyez, c'est intéressant que le théologien s'intéresse aux erreurs. Aujourd'hui, on ne s'intéresse pas beaucoup à la très sainte Trinité. Toutes les erreurs sont par rapport à l'Église. Quelle est l'autorité du pape par rapport au théologien ? Quelle est l'autorité du pape par rapport aux évêques ? C'est ça qui intéresse. C'est plus la question de la très sainte Trinité. Non, c'est trop loin. C'est dommage. C'est dommage. Parce que si on s'intéresse plus à la très sainte Trinité, on comprendrait mieux l'Église. L'Église, c'est l'Église de la très sainte Trinité. Et saint Augustin nous dit que si c'est très difficile de parler de la très sainte Trinité, cependant, la moindre lumière que nous avons sur la très sainte Trinité éclaire tout le reste. Ça, c'est très beau. Et je crois que si on regarde mieux le mystère de la très sainte Trinité, on comprend mieux le mystère de l'Église. On essaiera de comprendre ça. C'est très intéressant, ça. De voir que les erreurs d'aujourd'hui sur le mystère de la très sainte Trinité, les rapports entre l'autorité du pape et l'autorité des évêques, proviennent d'une erreur par rapport à la très sainte Trinité. Pas directement, hein, mais quand même. Si les théologiens d'aujourd'hui contemplaient plus le mystère de la très sainte Trinité, ils seraient moins arrogants, ils seraient plus humbles, ils seraient plus pauvres, ils seraient plus aimants. Ça, c'est sûr. Quand on est en face de la très sainte Trinité, vous savez, on est tout petit, parce que Dieu nous transcende infiniment. Et on est infiniment plus respectueux de la parole de Dieu, qui est toujours une parole trinitaire. Le Verbe de Dieu est toujours présent dans le mystère de la parole de Dieu. Et on comprendrait que l'Église est gardienne de la parole de Dieu, que c'est la bonne terre qui garde la parole de Dieu. Alors on aurait une autre attitude. Donc, saint Thomas, après avoir écarté toutes les erreurs, nous rappelle, procession, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une action. C'est ça ? ça implique une action. Or, si on réfléchit bien, on voit qu'en nous, il y a deux types d'actions. Il y a une action qui réalise une œuvre extérieure à nous, l'artiste. L'artiste est intelligent, il réalise une œuvre. Puis il y a une action immanente à nous, l'amour. L'amour se suffit à lui-même. L'amour ne réalise pas une œuvre. L'amour peut réaliser une œuvre, mais l'amour en lui-même ne réalise pas nécessairement une œuvre. Il y aura donc deux actions qu'il faut bien comprendre. Une qu'on appellera une action transitive et une action immanente. Ça, je peux le constater si je réfléchis. Quand vous aimez, vous ne réalisez rien. Vous aimez. Et c'est suffisant. La fameuse parole de Saint Bernard. La mesure de l'amour, c'est l'amour. Un artiste qui dit « Ah, oh, j'aime la statue que je conçois plus intime de moi. Oh, je l'aime. C'est merveilleux. » Il m'est réalisé là. Ah non, non, non. Non, non, non. C'est trop beau. C'est trop grand. L'artiste demande de réaliser une œuvre. L'action transitive implique une œuvre. Ad extra, comme diront les théologiens. L'action immanente, le fruit, est à l'intérieur de l'action immanente. Je m'arrête. On va continuer dans quelques minutes.